EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle pour commencer cette semaine. Et je vous rappelle que nos rendez-vous, ce sont les lundis, mercredis et vendredis. Si vous ne voulez manquer aucune de nos émissions, et moi-même je ne voudrais pas en manquer, eh bien je vous encourage à pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube, vous abonner si vous nous suivez sur podcast ou Spotify aussi, vous abonner comme ça, eh bien vous ne manquerez rien. Et cette semaine, nous avons encore un très beau programme et je suis avec Sandra et avec Stéphanie.
Coucou.
On retrouve Stéphanie hein, parce que oui. Stéphanie, ça fait un moment qu'on t'avait pas vue.
J'ai baladé quand même de Grenoble, de Bruxelles, de Paris. Je suis rentrée 48 heures et repartir pour la grande conférence à Paris.
On est contente de te retrouver.
Moi aussi, je m'ennuyais de vous les filles. Tout c'est vrai. Et comme à chaque fois, tout le monde me parle de vous, de tous les âges, hein, des jeunes femmes qui suivent les émissions jusqu'à des petites 8, 9, 10 ans qui suivre l'émission et c'est vraiment bénissant de voir que les femmes écoutent l'émission, sont touchées et franchement moi aussi je prends la peine de remercier toutes celles qui sont abonnées ou qui nous suivent sur les différentes plateformes. Merci de nous suivre. Et vous êtes aimées mesdames.
Oh, merci.
Et je vous dis le bonjour, je vous transmets les salutations de toutes ces femmes. Dites bonjour à Annabelle, dites bonjour à Sandra, voilà c'est fait.
Eh bien, merci nous aussi, nous vous disons bonjour. Et j'en profite pour remercier tous nos partenaires, la famille des partenaires. T'as dû rencontrer aussi Stéphanie.
Oui.
Et merci parce que c'est, encore une fois, je le dis, mais j'espère que vous en prenez la mesure. C'est grâce à vous, c'est avec vous qu'on accomplit toutes ces choses, qu'on peut produire toutes ces émissions et qu'on voit aussi ces beaux fruits. Et puis, quelquefois, ces fruits, on en entend parler quand on vous rencontre. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignage en allant sur emcitv.com/témoignage. Ça nous fait toujours tellement de bien de lire les différents témoignages que vous pouvez vivre à travers toutes les émissions de MCI, à travers aussi À table. Et mais c'est vrai que quand on rencontre les filles à l'extérieur, c'est « Oui, bah moi en fait j'ai écouté telle émission, ça m'a complètement bouleversée. Dites-le nous avant qu'on se rencontre pour de vrai. »
Mais c'est vrai que les partenaires font toute la différence parce qu'il y a des vrais témoignages de guérison. Juste même, certains m'ont dit la joie. Je débute ma journée avec vous, je suis dans la joie. Ça change toute mon attitude pour la journée. Donc, c'est très, très bénissant.
Eh bien, on est contente et heureuse de pouvoir vous accompagner en début de journée et vous communiquer notre joie de vivre. C'est la joie du Seigneur, hein, c'est pas la nôtre. Et aujourd'hui, les filles, on va recevoir Aimé qui a écrit un livre, Dis-lui et sois délivré de l'esprit de suicide. Et c'est vraiment une très belle histoire, encore une fois, de ce que Dieu peut faire dans une vie. Et j'avais déjà vu Aimé à distance, puis je l'ai vu pour de vrai il y a pas longtemps. Et quand on la voit, vous allez la voir, c'est une femme rayonnante, une femme magnifique. Et on ne s'imagine pas qu'il y a eu toutes ces années de souffrance derrière. On ne s'imagine pas ce que Dieu a pu faire dans sa vie. Ben, on voit le résultat en tout cas. Mais encore une fois, c'est tellement beau de voir tout ce que Dieu peut faire dans une vie. Alors bonjour Aimé et bienvenue à table avec Annabelle.
Bonjour Annabelle, bonjour Sandra, bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Tu es magnifique.
Oui, elle est
rayonnante. Et en plus, on ne trahira pas ton âge, mais nous pouvons dire que tu as des enfants d'un certain âge, toi, et que on dirait que tu es la sœur de ta fille.
Magnifique.
Donc Aimé, c'est ça, tu vas pouvoir nous partager ton histoire. Et je disais, derrière ce beau sourire, il y a eu des années de souffrance, des années aussi de larmes. Et en ce qui te concerne, ça a commencé en fait dès ta naissance. Tu es arrivée dans un foyer où ton papa était alcoolique et violent. Et du coup, tout de suite, cette histoire, l'histoire tragique a commencé.
Exactement, Annabelle, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai été dans cette famille-là ma mère, elle a épousé mon père, sauf que Elle ne savait pas qu'il était aussi violent. Il était très, très, très violent. C'est quand il buvait, en fait. Il était, on va dire, à peu près normal, quand il ne buvait pas. Mais dès qu'il a consommé l'alcool, il était incontrôlable, en fait. Et du coup, quand je suis née, à l'âge de 3 ans, ma mère, elle avait très peur, non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Donc, du coup, elle a décidé de s'enfuir avec moi, très loin. Ben, elle a juste dit à mon père que je vais dans le village à côté, je veux voir mon oncle. Sauf qu'elle a pris une autre voie. Heureusement, elle s'est enfuie très, 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 très loin avec moi. Elle est partie à la capitale, carrément, chez mon grand frère, et qui était dans une autre ville. Donc, mon père, même s'il aurait pu faire quoi que ce soit, il nous aurait jamais retrouvés. Donc, voilà.
Et donc, quand t'es arrivé chez ton grand frère, qui avait, un homme adulte, parce que lui-même, il avait déjà sa famille à ce moment-là, mère, en fait, t'a laissé, c'est ça? Ta mère, elle est repartie ailleurs après?
C'est ça, parce que ma mère m'a ramené là-bas. En quelques mots, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a dit, elle me laisse là, au moins avec mon grand frère, je serai en sécurité. Du coup, elle est repartie, mais au lieu de repartir chez son mari au village, parce qu'elle savait les conséquences qu'elle devait avoir. Donc, du coup, elle s'est arrêtée dans un autre village, chez son grand-oncle, en fait. Et c'est là-bas qu'elle a vécu. Donc, c'est comme ça qu'ils sont séparés avec mon père. Voilà, et sauf que moi, je suis restée, mon grand frère m'a pris à l'âge de 3 ans. Et au début, c'était correct, j'étais toute petite, il m'appelle Chouchou parce que j'ai deux prénoms, Aimé et Chouchou, parce que c'est celle ou celui que l'on préfère, parce que en fait, j'ai que des garçons, des frères, et je suis la seule fille et la dernière, donc j'étais vraiment leur chouchou. Mais ça, c'est quand j'étais petite, et quand je grandissais, à l'âge de 6 ans, 7 ans, je commençais à sentir aussi qu'il y avait des violences, pour tout et pour rien, en fait. Et les violences, ça veut dire que si t'as pas vidé la poubelle ou tu te réveilles pas le matin pour aller à l'école, c'est soit on te verse de l'eau pour que tu te réveilles, ou on te donne des claques, ou bien on te dit va te déshabiller, en fait, pour te frapper, va te déshabiller, tu viens en petite culotte et tu te mets à plat ventre au sol, et puis ils me donnaient des claques. C'était comme ça tout le temps, en fait. C'était ça tout le temps.
Il avait des enfants aussi, c'est ça?
Il avait des enfants, oui, il avait des enfants, mais les enfants, c'était aussi pareil, en fait, hein. Et avec mes frères aussi, en fait, tout le monde est passé par là. Mais le plus avec moi, c'est que j'étais une fille, et cette petite fille-là, je voulais être comme les autres. Ça veut dire, quand j'allais à l'école, je voulais avoir des tresses, je voulais avoir des cheveux. Mais sauf que la différence avec moi, c'est qu'il disait, non, t'auras jamais des cheveux, parce que je veux pas que les garçons te draguent. Du coup, il me rasait, mais à la lame gilette, que j'allais à l'école comme ça. Une fille à l'école comme ça, j'étais harcelée à l'école, j'étais humiliée à l'école, je me battais tout le temps.
Et jusqu'à quel âge il t'a rasé la tête?
Jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à ce que, parce que c'est vers 18 ou 19 ans que je suis partie de chez lui, en fait. J'étais toujours rasée, boule à zéro, comme on dit. J'ai toujours rasé, tout ça pour que les garçons me draguent pas. Donc ça m'avait, et une petite anecdote vraiment qui a révélé ce thème d'aujourd'hui, c'était je suis partie à l'école toujours rasée, sauf que j'essayais de cacher ma tête avec un foulard. Je prenais mon foulard, je m'attachais, mais c'était pire parce que les garçons, ils m'arrachaient le foulard, on me tapait sur la tête et tout. Et un jour, j'en avais marre, j'ai dit ok, c'est bon. Donc j'ai attrapé un garçon, mais je l'ai mis par terre, je l'ai roué des coups, sauf qu'il s'est blessé. Il s'est blessé et le sang coulait sur son visage. Il a couru chez ses parents, et moi je rentrais tranquillement à la maison. Il a couru, sauf que ses parents sont venus, on était dans un lotissement. Ses parents sont venus, les sœurs, les mères, les tantes, tout le monde, sont venus chez mon grand frère, ils sont rentrés. Mon frère était, il était choqué de voir toutes ces personnes. Et là, ils l'ont dit, ta fille, elle a blessé notre enfant, etc., etc. Ça faisait vraiment du bruit. Et mon frère, il était très calme, et il a dit, Ok, c'est pas grave, soit-il. Je vais lui régler mes comptes ce soir à ma fille. Donc, moi, je savais ce qui m'arrivait, hein, tout en sachant que mon père, c'était un militaire, mon grand frère plutôt. C'était un militaire. Mm-hmm. Il me frappait avec les ceinturons, les ceinturons des militaires, avec les fers, tout. Donc, moi, je savais ce qui m'arrivait, ce qui devait m'arriver ce soir-là. Mmh. Et ce jour-là, je me suis dit, déjà, c'est de sa faute. Si je me bats tout le temps à l'école, j'arrive en retard à la maison, s'il ne me rasait pas, j'allais pas avoir ce problème à l'école. Et c'est ce jour, c'était la première fois que je lui ai dit, si tu me rases, je me suicide. Mmh. Tout simplement, j'étais décidée parce que en plus du fait qu'il était militaire, il était aussi infirmier. Donc il avait des seringues, des piqûres, des comprimés, je savais exactement ce que je devais faire. Voilà. Donc je ne savais pas qu'en ce moment-là, en disant ces paroles-là, quelque chose s'était passé dans l'esprit. Donc cet esprit de mort est venu, il m'accompagnait un peu partout en fait. Je ne savais pas.
Et est-ce que quand tu l'as dit, tu le pensais? Est-ce que tu étais sérieuse ou c'était plus pour lui faire peur?
Non, pas du tout. J'étais déterminée parce qu'à l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans, j'avais, il me frappait tout le temps. Donc ce jour-là, je savais exactement. J'étais même contente de faire ce geste parce que je me suis dit, au moins, je veux partir d'ici. Mais j'étais décidée, je savais quoi faire. Je savais où se trouver les comprimés, les piqûres, tout. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. J'étais décidée.
Et en fait, est-ce qu'avant, tu pensais déjà à la mort? Tu pensais au suicide?
Pas du tout.
C'est vraiment quand tu l'as dit, là, tu voulais le faire pour de vrai. Et c'est après, tu t'es rendu compte que finalement, ça avait ouvert une porte et que c'est resté. En fait, ça t'a accompagné, cette pensée.
Exactement. Ça m'a accompagnée partout. J'avais pas d'abord l'idée parce que pour moi, c'était normal. Je voyais qu'on tapait aussi les autres, etc. Je me suis dit, moi, c'est encore un plus parce que j'avais la tête rasée. Les garçons, ils avaient la tête rasée, soit-il, mais moi, c'était un plus. Donc, ce jour-là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit, de toute façon, je sais quoi faire. Et après, quand j'avais grandi, etc., sauf que je suis allée chez un autre frère, j'avais pas ce problème d'idée de suicide. Alors, cet esprit-là est revenu au galop maintenant quand je me suis mariée. J'ai rencontré mon mari, tout s'est bien passé, je pensais jamais à ce genre de choses en fait. Mais s'il faut revenir un peu en arrière, je sais que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes parents m'ont mis dehors. Donc, j'étais dans la rue en fait. Et c'est une sœur en Christ, elle est partie vers le Seigneur maintenant, qui m'avait recueillie chez elle. Mais elle aussi, quand elle est repartie, retrouver son mari quelque part là où son mari était, je suis restée toute seule. Je suis restée avec des frères, en fait, qui ça se passait pas bien. Donc, je voyais toujours les mauvais traitements et tout ça. Et je me rappelle qu'un jour, je me suis dit, quelque chose me disait, lève-toi, va te jeter à Langouni. Langouni, c'est une grande rivière, un peu comme la Seine ici. Moi, je ne sais pas nager. Donc, et ce truc-là me disait, vas-y, de toute façon, tu ne sais pas nager, tu vas mourir tout de suite. J'avais remarqué des petites choses comme ça et tout. Et quand je me suis mariée, tout se passait bien. J'avais pas des envies de suicide et tout, sauf que je remarquais qu'à chaque fois que j'étais contrariée, quelque chose me disait, c'est bon. Vas-y, laisse-le avec les enfants, suicide-toi, regarde ci, regarde ça. J'avais toujours envie de m'enfuir, en fait. J'avais toujours envie de partir. Et je me rappelle aussi d'une nuit, en plein hiver, où j'étais contrariée. Quelque chose s'était passé, j'étais vraiment pas contente du tout. Ouais. Donc, j'ai pris la voiture. Il était 3 heures du matin. J'ai pris la voiture, je suis partie en plein hiver, il faisait froid, j'avais froid, mais je m'en foutais, je suis partie. J'ai pris la voiture, je suis partie, je ne savais pas où, nulle part. Et il faut aussi savoir que dans ces moments-là, j'ai beaucoup prié. J'ai donné ma vie au Seigneur depuis le 9 décembre 89. Donc, je savais que la mort, c'est pas une issue, mais j'étais comme oppressée par cet esprit de mort, vraiment, à chaque fois. Donc, parfois, je passais des veilles à pleurer chez moi. J'attendais que mon mari et mes enfants dorment et moi je priais, je passais des veilles, je faisais des veillées de prière toute seule en pleurant, en priant, en suppliant le Seigneur, aide-moi. Je sais que ça vient pas de toi, j'avais tout fait. Et cette nuit-là, quand je suis partie, je me suis évadée comme ça. Mon mari a vu que j'étais plus dans le lit et avec la deuxième voiture, il a fait toute la nuit, il n'arrêtait pas de me chercher, il me cherchait. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait, qui me trouve parce que du coup, il m'a trouvé. Bien sûr, il est venu cogner. Moi, je dis, je veux même pas le voir, je veux pas l'entendre et tout ça. Et à 7 heures, bon, lui, il est rentré parce que bien sûr, les enfants étaient là. À 7 heures, je suis rentrée. Ce jour-là, j'avais pleuré, j'avais prié dans la voiture et je suis rentrée. Donc, ça faisait des vagues comme ça. Ça faisait des épisodes comme ça à chaque fois.
Et un point quand même qui est important, bah parce qu'on est passé vite sur la conversion, mais c'est que lorsque t'es allé chez c'est ça, t'as grandi chez ton grand frère, t'es allé chez un autre frère, et suite à ça, t'as rencontré le Seigneur, t'as donné ta vie au Seigneur, et tu t'es engagée pleinement avec lui, parce que en fait, t'étais pas chrétienne quand t'étais plus jeune, ni dans ton enfance, ni dans ton adolescence. Donc c'est important juste de le dire qu'à un moment donné, t'as vraiment rencontré le Seigneur. Mais là, on revient donc dans ces années de mariage. Là, t'es une femme adulte, t'as ton mari, t'as tes enfants. Tu vas à l'église, tu sers, tu es une femme qui a l'air, bah, je pense, tu sais, solide aussi. Et comment est-ce que du coup tu vis ça, le fait que tu es une chrétienne, mais en même temps tu as ces luttes, tu as ces pensées suicidaires, tu as ces moments où tu as l'impression où tu perds pied. Comment est-ce que tu vis ça?
Bon, écoute, je vivais ça, je disais, en fait, c'était des blessures intérieures. Je savais que c'était des blessures qui n'avaient pas été traitées. Je me suis dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Et je sais que, par exemple, ici en France, on peut voir des psychologues, on peut voir, voilà, je suis même pas allée voir mon pasteur non plus pour lui parler de ça parce que, en fait, ça n'était pas là en permanence. Ça venait, c'était des épisodes. Ça veut dire, quand je suis contrariée, ben, vas-y. Fais le truc, quoi. Et puis après, dès que je me sens bien, mais le truc s'en va. Cet esprit-là s'en va. Donc, je ne prenais pas ça forcément au sérieux, ni que c'était un problème vraiment. Alors, mais j'étais déjà chrétienne, née de nouveau. Ce qui a attiré vraiment mon attention, ce qui m'a dit que, voilà, aimé, il y a un problème. Il faut que tu t'assoies. Il faut que tu puisses traiter ça. C'est déjà à la base, c'est juste pour vous dire, j'avais pas parlé à mon mari de toutes les blessures en profondeur, hein, de tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, et tout ça. Et puis autre chose, j'avais vécu, je viens de me rappeler, c'est que en dehors du fait que j'étais rasée, il y avait des punitions et tout, il y avait une femme qui venait vérifier si j'étais toujours vierge. Donc voilà, vous voyez un peu l'image pour savoir est-ce que à chaque fois elle venait pour voir si j'étais toujours vierge. Donc à un moment donné, je lui disais tu me touches pas. On allait dans la chambre, je lui disais c'est bon, tu me touches pas.
Donc mais ça a duré plusieurs années.
Ça a duré plusieurs années. Donc ça c'était des traumatismes pour moi, moi qui n'étais pas traitée. Donc je me suis dit bon, ça venait, ça partait. Mais ce qui m'a vraiment alertée, que je me suis dit Seigneur, il faut que ça s'arrête. C'est lorsque ben j'étais toujours contrariée, j'étais tout le temps contrariée et j'étais je me sentais pas bien, j'avais mal au bas-ventre une saison, c'était en 2022. Je me sentais pas bien, j'avais des douleurs au bas-ventre, c'était bizarre, c'était pas comme d'habitude. Et là j'ai dit à mon mari, il faut que je prenne un rendez-vous. Il m'a dit OK, j'ai pris un rendez-vous, je devais aller voir le médecin le samedi matin. Et lui, je sais que mon mari, il avait beaucoup de travail en ce moment, il était rentré tard le vendredi de travail et très tôt le matin, j'avais rendez-vous peut-être à 7h ou 8h. Il m'a dit, mais tu aurais dû prendre le rendez-vous même la semaine prochaine ou un autre jour parce que là, ça m'a encore beaucoup contrarié. En voiture, bien sûr, on s'est mis à parler, à discuter de ça. Et c'est là vraiment où je me suis dit, il faut que ça s'arrête parce que là, il était à 130 km sur l'autoroute, mais j'ai ouvert la portière. Je me suis dit, je me suis dit laisse-moi là, je veux partir à 130 km, c'était moi Là, j'ai vu mon mari. C'est vraiment en ce moment-là que j'ai dit, il faut que ça change. Parce qu'il essayait de me retenir. Je pense que le Seigneur était là. Parce que moi, j'arrivais pas à enlever ma ceinture. Ça bloquait. Lui, il essayait de me retenir. Après, il y a comme une présence douce qui est rentrée dans l'habitacle. Et puis, j'ai refermé la porte. À 130 kilomètres, j'ai refermé la portière. Et là, je suis allée chez le médecin. Un médecin avait vu une endométriose, voilà pourquoi j'avais mal. Et quand je suis revenue dans la voiture, je me suis dit, il faut qu'on parle. J'ai dit à mon mari, est-ce qu'on peut parler ce soir et tout. Et c'est comme ça que je lui ai raconté mon histoire. Parce qu'en fait, il savait pas. Souvent, on est là, on se marie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des comportements, des agissements, tu sais pas. Mais là, je dis, il faut qu'on parle. Comme ça,
que j'ai raconté. Est-ce que c'était la première fois que tu racontais toute ton histoire comme ça, en profondeur et en détail?
Exactement. J'avais aussi décidé de tout lui raconter parce que le Seigneur me parle beaucoup en rêve. Et j'avais fait un rêve où j'avais vu l'enfer avec toutes les âmes qui criaient. Et puis, j'avais entendu une voix me dire, il faut tout dire. Et puis, je me suis réveillée sur ce. Donc, toutes ces choses-là, c'était comme, il faut tout dire à ton mari parce que ça suffit. Et je voyais comment mon mari, il était triste. Et puis, il hésitait maintenant de me parler en voiture, il ne me parlait plus du tout. Donc, en étant... il me répondait.
Je comprends.
Il ne voulait pas reprendre
de... C'est sûr.
Non, il ne voulait pas. Et ce soir-là, bien, on s'est assis, j'ai beaucoup pleuré, je lui ai raconté ma vie, du début jusque là où on était, et tout ce que je vous raconte, même d'autres qu'on n'a pas le temps de dire, je l'ai tout dit. Voilà. Mmh. Et puis. C'est à ce moment-là que mon mari, comme l'a dit un chasse mille et deux en chasse 10 000, il a prié pour moi. Il a prié. Et depuis qu'il a prié pour moi, il arrive des moments où je ne suis pas contente, mais jamais, plus jamais, j'ai eu envie de me suicider. Plus jamais. J'ai été délivrée comme ça, vraiment.
Et Stéphanie, je veux rebondir sur un point par rapport au parcours d'Aimé, parce que tu as suivi des femmes pendant des années et des années, et il peut y avoir ce genre de parcours, de sentiments aussi, et il peut y avoir aussi beaucoup de honte accompagnée de ça, particulièrement dans l'Église, parce qu'on est chrétien et on se dit, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que j'aurais des idées de suicide, alors que normalement c'est la vie, quoi, d'être chrétien?
Oui, exactement. C'est tellement difficile pour une femme qui dit, je connais Jésus, je sais qu'il est bon pour moi, qu'il m'a racheté, tout ça, mais les pensées sont encore là. Et aimer, c'était la bonne chose à faire, c'est de briser ce silence-là. Et je dirais même avant de ne pas les minimiser. Parce que certaines vont dire, ben, moi, comme croyante, j'ai pas le droit d'avoir ces pensées-là. Mais c'est pas une question de droit ou pas le droit, c'est qu'elles sont présentes. Et des fois, quand on les étouffe, c'est là qu'elles grandissent encore plus. Donc, il faut briser ce silence-là. Et Aimé t'a fait la bonne chose en parlant à ton mari, c'est de trouver quelqu'un de confiance qui peut nous comprendre et nous accompagner dans ça. Et d'agir rapidement. Moi, je veux, franchement, quand j'écoutais le témoignage d'Aimé, ce qui brûle sur mon cœur, je me dis, peut-être qu'il y a une femme qui écoute l'émission, puis elle se dit, moi, ça, c'est ce que je vis en ce moment. Puis, c'est vrai, à qui veux-tu te tourner pour dire j'ai des pensées suicidaires? Mais il faut que tu brises le silence, que tu parles à quelqu'un de confiance, et c'est le commencement de la guérison. Mm-hmm. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de honte. Il avait eu ces pensées-là. Il y a des gens partout. David, il a pleuré sa vie. Il y a eu des moments, des grands héros de la foi qui avaient le goût de mourir. Je suis comme un vase brisé, qui avait dit David ou même Élie. Donc, la honte, ça fait juste paralyser. Il faut briser le silence et trouver vraiment quelqu'un, soit dans le domaine professionnel ou dans l'Église, ou une amie qui va vous accompagner dans ça. C'est extrêmement important.
Et Aimé, ton mari, donc il a prié pour toi. Enfin, il a en fait, finalement, il a été triste, il n'était pas fâché. Je pense qu'il a mieux compris aussi certaines choses te concernant, certaines réactions. Et est-ce que tu vois maintenant, avec du recul, hein, sans avoir de regrets, mais est-ce que tu penses que tu aurais pu lui parler plus tôt? Et si oui, tu penses que ça aurait accéléré la guérison?
Je pense que si je l'aurais dit, par exemple, quand on s'est rencontrés, lui dire tout, parce que j'entends des gens dire non, ne dis rien quand tu rencontres une femme, ou non, tu dis rien, c'est ta vie. Mais non, en fait, parce qu'on n'est plus seul, parce que tout ce que je vivais en moi, ces offenses, ces blessures et tout, mais mon mari les vivait aussi d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Même s'il ne parlait pas, il était blessé de me voir comme ça. Et du coup, ça peut-être réveiller des peurs en lui. Donc, je pense que si je l'aurais dit très tôt, je ne serais pas arrivée parce que je l'ai fait très peur. À 130 km, ouvrir une voiture et vouloir sauter, c'était, voilà, si je l'aurais dit, j'aurais pu lui dire très tôt. Vraiment, il faut, comme dit Stéphanie, il faut pas rester comme ça. Il faut en parler à un ami, un frère, quelqu'un de confiance, vraiment, pour pouvoir en parler.
Est-ce que tu avais essayé d'en parler à quelqu'un d'autre avant ton mari?
Pas du tout.
Ouais, ben c'est peut-être une petite parenthèse de dire quand tu reçois, parce que dans mon bureau à l'église, c'est arrivé souvent, ben souvent, à quand même quelques reprises, des femmes qui avaient des pensées suicidaires. Et quand tu reçois, c'est pas si simple, mais peut-être pour quelqu'un dans votre entourage qui vous dit, parce qu'on dit faut que la personne parle rapidement, mais faut que la personne qui accueille cette information bouge aussi rapidement. Mm-hmm. Et c'était peut-être, si tu me permets, Annabelle, de faire, tu sais, quand quelqu'un veut te dire j'ai des pensées suicidaires, il faut rester calme, bien sûr, on prie, on demande la sagesse de Dieu, mais il y a juste trois étapes qu'on peut vérifier. On appelle ça le COQ, hein, COQ, et en fait, de regarder comment tu ferais ça, tu sais, de dire à la personne, mettons que tu as une amie, dire, Stéphanie, je pense que j'ai des pensées suicidaires, mais comment ferais-tu ça? Tu vois, Aimée, elle a dit, je savais que mon frère avait des médicaments. Déjà, faut que tu allumes. Tu dis, OK, elle a déjà un plan. Où ferais-tu ça? Ben, peut-être à la maison, peut-être dans un endroit où j'irais prendre une chambre d'hôtel et je m'en irais là. Et la troisième, dans le COQ, c'est au cul, c'est quand. Alors, quand la personne te dit, ben, je ferai ça demain, là, j'en peux plus, je vais, ou tu sais, comme, tu vois, alors, il faut vraiment intervenir dans le comment, où et quand. Et là, c'est le temps d'aller chercher un secours, aller chercher de l'aide. Et c'est important de le valider parce que certaines personnes vont lancer cette phrase-là, je veux me suicider, et ça peut être un peu dans la manipulation. Donc, ouais. Ça demande la sagesse de Dieu, mais aussi de toujours passer à travers ces questions-là et de prendre jamais ça à la légère. Parce que moi, il m'est arrivé une situation comme ça, qu'il y avait quelqu'un qui avait laissé cette pensée-là sur mon répondeur de téléphone à l'église. Et quand je suis arrivée le matin, j'ai entendu sa détresse et immédiatement, on est intervenu, je te dis, ça m'a donné comme une sainte crainte de jamais prendre cette situation, un cri de désespoir à la légère. Il faut intervenir.
Justement, en tant qu'accompagnant, je me demandais par rapport à ton mari, Aimé, est-ce que lui, il avait déjà posé des questions? Est-ce qu'il avait remarqué justement l'état dans lequel tu étais? Et est-ce qu'il avait comme un peu ouvert la porte pour que tu puisses lui parler, mais que tu n'osais pas ou pas du tout non plus?
Des questions directes, non. Des questions directes, non, mais je sais qu'il priait beaucoup pour moi. Il priait beaucoup pour moi et pour revenir à ce que Stéphanie, elle dit, c'est vraiment quelqu'un de confiance à qui tu peux le dire parce que moi, j'avais remarqué, je suis grande comme je suis, je pourrais avoir des problèmes, mais quand tu vas le dire à quelqu'un, le lendemain, tout le monde est au courant. Donc, c'est peut-être ça qui m'a freinée. Voilà pourquoi il faut vraiment quelqu'un de confiance et de mature pour comprendre et dire, comme Stéphanie dit, il faut traiter le problème tout de suite. Moi, le seul ami que j'ai, la seule personne à qui même mes enfants n'étaient pas au courant. Christine, elle n'était pas au courant. Donc, je vivais ça vraiment moi-même toute seule. Je pouvais parler à personne. Et la personne de confiance à qui c'était vraiment mon mari, quoi. C'est lui, il m'a pas jugé parce que en milieu chrétien, je suis désolée, même dans les familles, on se juge trop, on se dit ouais, tu es chrétienne, ça fait des années, tu as encore cette pensée là. Mais non, en fait, on est humain, on peut passer par un traumatisme, on peut passer par la dépression, on peut passer par beaucoup de choses. Mais le Seigneur est là toujours pour nous relever. La preuve, quand j'en ai parlé à quelqu'un de confiance, il m'a aidé, il a prié, il m'a pas jugé. Du coup, on a pleuré ensemble, il m'a pris les mains et puis on a prié. Je suis moi-même choquée de ce que j'ai plus jamais eu ça.
Et c'est ça un petit peu le paradoxe, c'est que on grandit quand même dans notre foi et on vit de belles choses, mais tout ce qui n'a pas été traité continue d'avoir un effet et quelquefois c'est plus ponctuel, quelquefois c'est plus intense aussi, mais on continue de grandir, donc on se dit bon, est-ce que ça vaut la peine d'en parler, est-ce que c'est légitime, mais c'est certain que tout ce qui n'a pas été traité, mais en fait va continuer de produire un fruit. Il y a un mauvais fruit et c'est important même quand on a 20, 30, 40 ans de vie chrétienne de pouvoir se dire Seigneur, si cette partie-là n'a pas été traitée, s'il y a encore une blessure, j'accepte que tu me guérisses. Et quelquefois on s'empêche en fait de le vivre parce qu'on se dit je devrais être plus loin, je devrais déjà avoir réglé ça, mais en fait c'est pas le regard de Dieu, c'est que bah, oui ça aurait été bien que tu le règles avant, mais on peut encore le régler maintenant et c'est jamais trop tard et c'est toujours le moment de la guérison. Et ce sera toujours utile. C'est toujours le meilleur de Dieu qu'on puisse être guéri. Et je veux aussi revenir sur ta déclaration, Aimé, parce que tu as dit que c'est à partir de là que tu as senti que la mort t'avait accompagné et était devenue une option dans ta vie. C'est le jour où toi-même tu l'as verbalisé à ton frère en disant si tu lèves la main sur moi, je me suicide. Et l'importance aussi de nos paroles. Quelquefois, on a ouvert des portes en faisant nous-mêmes une déclaration de mort sur notre propre vie dans un moment de désespoir, un moment de détresse. Et en fait, si vous dites, mais moi j'ai fait ce que Aimé a fait, et c'est vrai que depuis je sens que c'est quelque chose qui revient, eh bien vous pouvez refermer cette porte et annuler cette parole que vous avez dite. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose que vous avez dite et ça a comme laissé un droit, un pass dans le monde spirituel pour que la mort, la maladie puisse venir. Mais maintenant, vous pouvez reprendre votre autorité de dire mais j'annule cette parole dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a aucun esprit de mort qui m'accompagne, aucun esprit de mort, la mort n'est pas une solution pour moi, je vis et je vivrai, tu es celui et vous pouvez confesser qui est Jésus aussi dans votre vie et je crois que c'est vraiment important de pouvoir avoir conscience qu'il y a eu un moment, il y a eu une brèche et de pas vous condamner non plus à cause de cette brèche, mais il y en a eu une brèche et le monde spirituel est actif et activé par nos paroles et de pouvoir en avoir conscience. Le Saint-Esprit vous le rappelle aujourd'hui parce que, comme tu le dis, Aimé, tu l'as compris avec un peu de recul, ce jour-là, en fait, t'as fait une déclaration qui a eu un effet et des conséquences spirituelles sur ta vie.
Exactement, ouais. Exactement. Parce que, comme la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Hein. Celui qui en aime en mangera des fruits. Et là, ces fruits-là étaient juste, cet esprit-là attendait le moment opportun pour pouvoir agir. Et comme Dieu fait grâce, nous sommes une œuvre en progression. Et même si on a tant d'années dans le Seigneur et qu'on sent qu'on a certaines choses, ben le Seigneur est avec nous, nous accompagne dans cela. Et puis moi, c'est le moyen pour lequel il m'a donné. Moi, c'est peut-être l'esprit de suicide. Ça peut être autre chose, hein. Mais le Seigneur est là et puis il nous aide. Et il y a toujours, toujours, toujours une solution avec le Seigneur. Il y a toujours une solution. Mm-hmm.
Je vais rebondir tellement sur ce que tu dis parce que vous mettez à la lumière que l'ennemi, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Et la pensée du suicide, en fait, c'est un geste qui est définitif pour une solution qui est temporaire. Et souvent, quand on a les femmes, les gens qui sont pris par cette pensée-là, c'est l'espoir qui est parti. Parce que tu dis, la solution, ça va être de m'enlever la vie parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est plein, plein de mensonges parce qu'il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Il y a toujours une solution avec Jésus. Et c'est là qu'il faut briser cette pensée-là que souvent, comme tu as dit, Annabelle, on ouvre des portes, mais comment on peut la refermer? Mm-hmm. C'est de dire, ça, la pensée suicidaire, c'est un mensonge. Mm-hmm. Le geste va pas m'emmener du bonheur et ne va pas régler la solution. Au contraire, ça va affecter ta famille, ton environnement. Donc, c'est pas un geste c'est un geste de mort et c'est le mensonge de l'ennemi et de revenir avec l'idée que Dieu a des plans pour ma vie et il y a des solutions. Et c'est là, quand on vient dans ces pensées noires, c'est qu'on perd l'idée qu'il y a des solutions. Et moi, je veux me lever haut et fort. Je veux dire, il y a toujours des solutions avec Jésus. Le miracle est possible. Les situations peuvent être transformées. Je continue à prier. Je demande la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Et je sais que les choses vont changer. Alors, je veux le dire à une femme qui écoute l'émission. Les choses vont changer. changer. Ta vie en ce moment, c'est pas terminé. Mets pas un point dans la phrase quand Dieu a mis une virgule, tu vois. On dit souvent cette phrase-là, mais elle est vraie. Dieu n'a pas joué son dernier coup. Et accroche-toi pour l'avoir traversé. Il est le Dieu des miracles aujourd'hui. Et ta situation peut complètement être renversée. Mm-hmm. Et excusez-moi, c'était trop fort, je vais le dire à quelqu'un.
Comme, je veux te lire, Aimé, parce que je trouve que tu l'as très bien écrit dans ton livre. C'est la toute première page du livre, mais c'est une très belle introduction. Je crois que ça va encourager plusieurs femmes à ouvrir leur cœur et à comprendre le besoin et la nécessité, l'urgence même, de pouvoir parler aujourd'hui. Parce que toi, ça a pris des années avant que tu puisses parler. Et le fait qu'aujourd'hui, tu puisses le dire et que tu puisses être une voix, ça va accélérer le processus chez d'autres et éviter beaucoup d'années de souffrance. Donc tu dis, Aimé, pendant longtemps, j'ai cru que la meilleure façon d'affronter mes blessures était de ne rien dire. J'étais convaincue que parler, c'était avouer sa faiblesse. Alors j'ai tout gardé, mes peurs, ma honte, ma tristesse, mes pensées les plus sombres. Tout était enfermé à double tour dans une pièce secrète au fond de mon cœur. Mais à force de vouloir tout garder en moi, j'ai fini par étouffer. Ce silence censé me protéger est devenu ma prison. J'ai cru être forte, mais je me détruisais petit à petit feu, lentement, sans m'en rendre compte. Puis un jour, j'ai compris que si je voulais sortir de ce tunnel, je devais parler. Je devais oser briser ce silence étouffant pour mettre enfin des mots sur mes souffrances. Ce n'était pas facile, mais c'est là que j'ai commencé à guérir. Et tu le dis tellement bien, Aimé, ce silence qui était censé te protéger, qui est finalement devenu une prison où tu étouffes, où tu meurs à petit feu. Et je crois que ces mots résonnent dans le cœur de plusieurs. Et pour vous, en fait, c'est le go, c'est votre go pour dire j'ai besoin de parler. Premièrement, j'ai besoin de l'exposer devant Dieu, parce que peut-être que votre bonne conscience chrétienne vous a même empêché de le dire à Dieu, qui connaît déjà l'état de votre cœur, et qu'après ça, je crois qu'il va aussi vous diriger pour vous donner une personne de confiance à qui vous pouvez parler. Stéphanie, t'es en feu. T'étais en feu, et tu vas pouvoir, j'aimerais bien qu'on prie pour toutes ces femmes qui passent à travers ces luttes secrètes. Et juste avant qu'on prie, Aimé, je voulais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais tout simplement dire, j'aime bien cette citation qui dit que la vie, c'est comme une bicyclette, en fait. Il faut bien pédaler pour ne pas tomber. Mais moi, j'ai donné à ma vie, la bicyclette, c'est la vie. Moi, j'ai donné au Seigneur vraiment cette partie-là, que lui seul, il puisse pédaler et qu'enfin, que je puisse garder l'équilibre, parce que je l'avais perdu, cet équilibre. Voilà. C'est juste pour dire à une femme que Dieu est la solution à toute espèce de problème. Et il agit toujours et il nous délivre toujours. C'est le but, parce qu'il a des plans de bonheur pour nous et non des malheurs, en fait, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ça, mon dernier mot.
Amen. Merci, Aimé. Donc, Stéphanie, est-ce qu'on peut prier?
Oui. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, et je viens devant toi avec cette assurance que tu entends lorsque nous faisons appel à toi. Et Seigneur, tu vois ces femmes à travers ce témoignage de Aimé, comment elle a brisé le silence. Je prie pour une femme qui écoute cette émission, qui est prise dans cette prison de ses pensées suicidaires. Là où elle est, par ton Saint-Esprit, tu viens la toucher. Tu viens, Seigneur, premièrement, lui donner le droit de faire face à ses pensées, de réaliser qu'elle est prise dans cette prison-là, qu'en ce moment, ton Saint-Esprit vienne la visiter. Et alors que je prie, Seigneur, je vois ces portes de prison qui s'ouvrent graduellement, comme une lumière qui vient dans leur cœur. Je prie que le mensonge de l'ennemi puisse être brisé dans la puissance du nom de Jésus. Que ses pensées puissent, elles puissent croire que c'est une solution en fait, que c'est un mensonge. Seigneur, je prie que toute pensée de mort puisse être liée et que tu remplaces, nous remplaçons toute pensée captive à la connaissance de Jésus-Christ. Et la connaissance de Jésus-Christ, c'est que tu as des projets, comme Aimé a dit, comme ta Bible déclare, des projets de paix et non de malheur. Alors qu'une femme pense que tout est fini, que tout est impossible, tu as dit aux hommes, c'est impossible, mais à moi, tout est possible. Je prie au Dieu de l'espérance. Viens redonner l'espoir qu'en ce moment, au son de ma voix, qu'il y ait une lumière dans les pensées, une lumière dans le cœur, de dire, mon Dieu m'entend, mon Dieu me voit, mon Dieu va agir. Il est avec moi. Je te prie que tu calmes les vents. Certaines sont dans la tempête, dans la barque. Seigneur, rouvre leur cœur, leurs yeux, lui montrer que tu es à côté d'elles. Tu es assis dans la barque, Seigneur. Tu calmes les vents. Tu donnes la force aussi à une femme de briser le silence, de parler, de te parler, mais aussi de trouver une personne de confiance. Qu'aujourd'hui, ça a une décision. Une femme prend la décision de briser le silence, d'aller chercher de l'aide, Seigneur. Et je proclame la vie, Seigneur. Je proclame la vie, Seigneur. Tu dis que tu nous connaissais, tu connais chaque jour qui nous sommes destinés. Alors, dans tes plans, tu as des plans de vie. Alors, redonne la foi en ce moment. Redonne la joie en ce moment. Seigneur, tu changes le deuil en allégresse. Seigneur, tu entoures par derrière et par devant. À travers la télé, Seigneur, tu es au-delà de ça. Saint-Esprit, tu couvres, tu mets une onction, Seigneur. Tu montres à cette femme qu'elle est aimée, à ces femmes qu'elles sont aimées, qu'elles sont précieuses, qu'elles sont choisies pour une destinée et que tu ne te repens pas de ton appel. Ouvre des portes nouvelles, Seigneur. Tu donnes l'espoir. Et c'est dans le puissant, puissant nom de Jésus que j'ai prié. Je te remercie à l'avance parce que nous allons entendre des témoignages de ce témoignage et de cette émission. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Aimé, d'avoir été avec nous, d'avoir écrit aussi ce livre. Donc, je le redis, dis-lui et sois délivré de l'esprit de suicide. Donc, un livre qui est disponible sur toutes les plateformes. Et Aimé aussi, on n'en a pas parlé, mais je vais juste terminer en le disant, tu es très engagée au sein des hommes du plein évangile et tu es une grande bénédiction pour la francophonie à travers l'œuvre que tu fais, très impliquée aussi dans ton église. Paris Centre Chrétien, tu salueras Pasteur Dorothée Radja, qu'on aime beaucoup ici à EMCI et dans la table avec Annabelle. Donc merci beaucoup Aimé, encore merci une fois d'avoir été et d'avoir pris le temps d'écrire ton histoire, d'être une voix pour celles qui souffrent et je prie que ça puisse porter du fruit, que de nombreuses femmes soient délivrées à travers ce message, à travers ce que Jésus a fait dans ta vie et ça puisse encourager d'autres femmes à se dire, il peut le faire aussi dans ma vie. Donc merci Aimé d'avoir été assez courageuse pour pouvoir exposer toute cette partie de ta vie. C'était pas forcément un exercice facile, tu le dis dans le livre, et toi-même écrire ce livre a été à compléter ta guérison, et c'est merveilleux ce que Dieu a fait. Donc je te dis à bientôt Aimé, merci d'avoir été avec nous, et puis à vous tous, et bien on se retrouve mercredi, bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.